Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Bécane, biclou, petite reine, autant de mots pour désigner une invention géniale. Il y a 200 ans, l'ancêtre de la bicyclette faisait sa première sortie dans le sud de l'Allemagne. Deux roues, une barre transversale et un guidon. La draisienne est devenue vélo et le succès de ce moyen de transport révolutionnaire ne s'est depuis jamais démenti. Et puis tant qu'on y est, on parlera aussi sécurité routière. La Suisse est particulièrement sévère en la matière, nous dira Katia Beach. Au micro, Constance Dunkötze, Guten Tag, bonjour à tous.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. À bicyclette.
Ich bin ganz begeistert. Ich finde das Fahrrad wirklich toll.
Ce vélo est tout simplement merveilleux. Je suis surprise que le changement de vitesse se fasse aussi facilement. Et j'adore la marque Böttcher. Ce qui me plaît, c'est que les vélos de cette marque sont fabriqués de A à Z en Allemagne.
Zur Auslieferung passiert alles im Grunde genommen in Deutschland.
Avant d'investir plusieurs centaines d'euros dans son nouveau vélo, Oula fait un petit tour de piste dans le centre de Cologne. La bicyclette sur laquelle elle a jeté son dévolu est, il faut bien le dire, magnifique, grise claire, légère comme une plume, élégante. Bref, pas grand-chose à voir avec la draisienne inventée il y a 200 ans.
Le tout premier vélo n'avait pas grand-chose à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui.
Thomas Willich, propriétaire du magasin de vélo Masrad.
Il n'avait pas de pédale. On était assis sur une selle et il fallait pousser avec ses pieds pour le faire avancer. C'est un peu l'équivalent des vélos actuels pour enfants. Depuis, le développement a été gigantesque. Pour le cadre d'abord. Aujourd'hui, il peut être en acier, en aluminium ou en carbone. Avant, c'était du bois. Les pneus ensuite. Il y a 200 ans, les chambres à air n'existaient pas. C'était des pneus pleins, en caoutchouc, très durs. Il n'y avait pas non plus d'éclairage intégré. Bref, vous voyez la différence entre le vélo d'autrefois, que l'on appelait draisienne, et le vélo d'aujourd'hui est vraiment énorme.
Pas très sexy la draisienne, il n'empêche, son inventeur Karl von Drais réussit le 12 juillet 1817 à faire 14 km sur son engin, en une heure. Un petit exploit si l'on pense que la machine pesait 22 bons kilos. Son périple entre Mannheim et Schwetzingen, deux villes du Bade-Württemberg, marque l'acte de naissance de la mobilité individuelle. Et si le vélo d'aujourd'hui n'a effectivement plus grand-chose à voir avec la draisienne d'il y a 200 ans, l'idée de base reste la même. Se déplacer sur deux roues plus vite et avec moins d'effort que sur deux pieds. Le concept n'a pas vieilli d'un poil. En 2017, la bicyclette est l'un des moyens de locomotion les plus utilisés au monde. Et selon l'Office fédéral des statistiques, en 2016, 81% des ménages allemands en possèdent au moins une. C'est dire si le vélo est devenu un moyen de locomotion universel. À l'origine, pourtant, la draisienne puis le vélocipède à pédale étaient plutôt réservés aux classes aisées avant d'être provisoirement mis de côté au profit de la voiture. Thomas Willing.
Au début du XXe siècle, l'automobile relègue la bicyclette au second plan. La voiture est prisée par la bourgeoisie, mais aussi par les classes populaires. Le vélo devient un loisir. Ce n'est que depuis quelques années, avec la pollution croissante dans les villes et les bouchons, que le vélo est revenu sur le devant de la scène. Pour tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. On s'en sert notamment pour aller au bureau.
Rien d'étonnant que Thomas Willing soit lui-même arrivé ce matin dans son magasin en vélo.
Depuis 4-5 ans, le vélo n'est plus seulement un simple moyen de locomotion. Il est aussi un symbole de réussite sociale, un moyen de prendre du bon temps. Les gens veulent de plus en plus avoir un beau vélo.
Le chic, c'est aussi ce qui semble avoir conquis Oula, la cliente de Masrat. Pour elle, le vélo est à la fois un moyen pratique pour se déplacer au quotidien, mais aussi un loisir. Et avec plus de 53 000 km de pistes cyclables sur toute l'étendue du territoire national, il y a de quoi faire un nombre incalculable de balades en plein air. Le vélo comme moyen de locomotion, permettant de prendre soin de sa ligne et de l'environnement, que demander de plus ?
Pour les 200 prochaines années, je souhaite au vélo de s'implanter toujours plus dans le paysage urbain, à Cologne notamment, et ainsi de faire reculer le trafic automobile, qui à mon sens est beaucoup trop important. Et je souhaite aussi que le vélo continue à se réinventer, comme il l'a fait ces 200 dernières années, et devienne peut-être encore plus léger, encore plus beau que ce qu'il est déjà aujourd'hui.
Vous écoutez Vue d'Allemagne sur les ondes de la Deutsche Welle, l'Allemagne où le secteur de la bicyclette pèse environ 16 milliards d'euros et emploie 278 000 personnes. Deux tendances qui vont probablement s'accentuer ces prochaines années avec tout ce que cela comporte de défis en termes de gestion du trafic et de sécurité routière. À ce sujet, la Suisse est particulièrement sévère, gare aux excès de vitesse sous peine de prison ferme. En 2013, le pays a adopté Via Sicura, un programme pour renforcer la sécurité routière et parmi les mesures choc, une peine automatique d'un an de prison pour les automobilistes qui commettent de gros excès de vitesse. Si les associations de victimes de la route saluent ce tour de vis, des voix s'élèvent pour dénoncer les peines excessives et les abus de Via Sicura, les limites de la répression routière. Un reportage de Katia Beach.
Une belle route de campagne, droite et dégagée, une agréable fin de journée, Thierry, 72 ans, décide de faire une petite pointe de vitesse à moto. Il ne voit pas le policier dissimulé dans un champ de maïs. Thierry est flashé à 140 km/h sur cette route où la vitesse est limitée à 80. Quelques heures plus tard, la machine judiciaire s'enclenche.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus à la maison, la gendarmerie locale, la police locale, j'étais avec ma femme et deux petites filles, et puis il m'a dit, vous êtes en état d'arrestation, on va venir avec un fourgon, des menottes, et on va vous mettre en cellule. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, j'ai passé 5 heures en cellule, après on m'a demandé un avocat, et puis l'avocat est arrivé, et il m'a tout de suite dit, on peut rien faire. Donc c'est une grille, c'est une année de prison avec 2 ans de sursis, des jours amende, 60 jours en général, retraite permis pendant 2 ans, mon casier judiciaire de toute façon, et il n'y a pas de possibilité de recours et tout, c'est une grille. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça coûte 12 000 francs, pour quelqu'un qui a des sous, ça coûte 15 000 francs parce que les jours amende sont un peu plus chers. Et puis j'ai dû passer un examen psychologique du trafic. 3 heures et demie d'entretien, mais sur ma personnalité, il y a 10 pages à 4 sur mon caractère. Avec une psy qui essayait toujours de trouver mes failles. Quand je suis sorti, j'étais très mal, effectivement.
En 55 ans de conduite, Thierry n'avait jamais commis d'infraction. Malgré tout, la peine est sans appel. 1 an de prison, liberté conditionnelle, 2 ans de sursis, 2 ans de retraite permis, l'équivalent de 15 000 euros de frais de procédure. Il estime avoir été considéré comme un criminel sans pour autant avoir eu droit à un procès.
Il aurait été de la compétence d'un juge d'analyser la situation. Mais la faute est là, j'ai toujours admis. Mais je trouve que la façon dont j'ai été traité était lamentable. Ma femme a beaucoup souffert d'abord de voir que j'avais plus tellement d'étincelles dans les yeux et que j'avais une certaine rage. Et mes enfants ont beaucoup souffert, ont trouvé qu'on touchait à ma dignité. Je trouvais que c'était un peu dur. J'ai un des fils adoptifs qui est gardien de prison. Il disait on traite mieux les prisonniers qu'on t'a traité dans cette histoire. Mmh. Pour moi, j'exagère un peu, mais c'est un peu la charia. On fait une faute, on ne discute pas, on punit. Et il y a souvent des circonstances atténuantes.
Au Parlement, 4 ans après l'instauration de la loi Via Sicura, des voix s'élèvent et dénoncent des mesures disproportionnées envers les chauffeurs et ses lourdes conséquences. Perte d'emploi, difficultés financières, certains magistrats ne cachent plus leur embarras. L'application des peines planchers empêche toute marge de manœuvre. Pour Maître Jacques Roulet, avocat de la route, les juges doivent absolument conserver leur capacité d'appréciation. C'est le principe même de la justice.
Le conducteur qui va traverser un village à côté d'une école où sortent des enfants à 100 km/h alors que c'est limité à 50 ou à 40, on est tous d'accord. qu'il faut le punir. Mais celui qui se trouve sur l'autoroute parce qu'il y a un panneau 40, pas souvent intelligemment posé, qui ne le voit pas suffisamment, qui ne lève pas le pied suffisamment. On ne peut pas lui dire, monsieur, vous êtes un criminel de la route, vous devez aller une année en prison.
Depuis l'entrée en vigueur de Via Sicura, 67 personnes ont fini derrière les barreaux. Et l'an dernier, 80 000 conducteurs ont perdu leur permis. Dans le même temps, l'an dernier, 216 personnes sont mortes sur les routes suisses. Un chiffre en baisse constante depuis 10 ans. Face à ses voisins européens, la Suisse figure parmi les bons élèves, avec moins de 50 morts par million d'habitants. Le programme Via Sicura a-t-il contribué aux bons résultats de la Suisse en matière de sécurité routière ? Trop tôt pour faire le bilan. Mais ce que constate l'association Touring Club Suisse, c'est que le degré de répression a de toute évidence permis de sensibiliser les conducteurs. Yves Gerbert est porte-parole du Touring Club Suisse.
Il y a une vraie prise de conscience de la part de la population. Bien entendu, ça a été accentué par ce volet très répressif sur la question du chauffard. Mais c'est une question qui est en fait l'arbre qui cache la forêt. Il y a plus d'une soixantaine de mesures dans ce programme Via Sicura. Par exemple, au niveau de du taux d'alcool, aujourd'hui, il y a une tolérance zéro pour 1000 pour certaines catégories de conducteurs, comme les professionnels ou les jeunes. Je pense qu'il y a plusieurs actions qui sont menées conjointement qui mènent à ce résultat.
D'autres mesures entreront en vigueur en 2019, comme l'obligation pour les personnes ayant commis de gros excès de vitesse d'équiper leur véhicule d'une boîte noire pendant 5 ans. Les automobilistes ayant été interpellés en état d'ivresse devront suivre une thérapie pour récupérer leur permis. La Suisse a pour ambition d'approcher le zéro mort sur les routes d'ici 2023.
La sécurité routière version suisse, un reportage de Katia Beach à retrouver dans notre médiathèque sur le dw.com/français. Et puis si vous voulez nous faire part de vos expériences en la matière ou nous dire à quoi ressemble le vélo de vos rêves, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss.
En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez, j'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux et je donnerai n'importe quoi. Quoi vois-tu qu'il en sait avec toi, celui qui te proposerait de partir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara.